Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce matin, à travers les partages et à travers les prières, encore une fois, il était question de Christ au centre, le Christ qui dépasse ce que nous pensons. Mais avant de commencer, je tiens juste à vous rassurer, si les enfants ne sont pas là, c'est que tout simplement, ils se préparent pour qu'on part en Alsace tout de suite après manger. Voilà, donc il est question de se préparer. Voilà, donc ça va être trop court. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils sont à la maison. Donc voilà, c'est pour ça. Donc il n'y a rien de... Voilà. Bien. Nous allons commencer par la prière. Seigneur, comme à notre habitude, ce matin nous venons à toi, parce que nous savons que sans toi nous sommes rien, et si nous sommes là, c'est par ta grâce. Tu l'as voulu ainsi. Nous le saurons un jour quand on sera au ciel auprès de toi. Nous aurons une réponse à toutes nos questions. Mais tant que nous sommes ici-bas, nous dépendons de notre âme, de notre corps, de nos capacités intellectuelles limitées. Mais tu nous as donné la foi qui ne cherche pas à croire pour voir, à voir pour croire, mais la foi nous dit que tu habites en nous, nous sommes au ciel, nous sommes une nouvelle création comme notre Seigneur nous l'a dit ce matin. Je remets entre tes mains ce partage et faire du mieux que possible que ce qui vient de l'homme soit mis de côté, mais que tu nous parles, à commencer par me parler, moi le premier, en ton Saint-Nom. Amen. Alors le sujet d'aujourd'hui est le fruit d'une discussion de mercredi soir. Notre discussion était autour de la croix, de Christ, le centre, et notre frère Roland a suggéré que pourquoi nous ne parlons pas de la Genèse, nous ne pouvons pas parler aussi de toute cette interprétation, ces questions que nous pouvons nous poser, parce que nous avons dit que Christ, ce n'est pas seulement le Christ d'il y a 2000 ans. Souvent, dans l'histoire, nos historiens nous présentent Christ, celui il y a un peu plus de 2000 ans. On nous fait même des films. Et on dit, c'est cette personne-là qu'on appelle Fils de Dieu, parce que l'Esprit habite en lui. Il a vécu à peu près 33 ans, crucifié, mort, ressuscité. Hop! Et on dit, voilà le Christ. Les religions, c'est ce que nous présentent, que ce soit l'Église catholique et même le courant protestant. La Bible nous dit que Christ est plus que ça. Comme je l'ai lu tout à l'heure, il est la parole de Dieu. Il existait avant la fondation du monde. Il existera après. Il a toujours existé, Christ, la parole nous dit. Alors, ramener Christ à seulement cette personne il y a 2000 ans, vous reconnaissez avec moi que c'est une façon de réduire encore la réalité de notre Seigneur. Alors, notre partage. Je dirais, il va être un questionnement, et je m'excuse par avance, si ça crée une confusion dans chacun de nous. Mais je ne suis pas là pour satisfaire les curiosités des uns et des autres, y compris la mienne. Mais en se basant sur la parole de Dieu, nous verrons que souvent notre logique que nous pensons divine, notre logique qui règle le monde, on croit que tout doit passer par notre logique. Si nous ne comprenons pas, si ce n'est pas logique, s'il n'y a pas cause et conséquence, on balaye. Comme si les pensées de Dieu résident dans notre pensée. La Bible nous dit, tes pensées ne sont pas nos pensées, tes voix ne sont pas nos voix. Ça nous dépasse. Nous allons partager ce matin, et je divise en deux parties. Aujourd'hui, nous allons évoquer ce que j'appelle comme titre le Christ, l'aboutissement de la création. Il n'y a pas de création sans Christ. Si Christ se retire, il n'y a pas de création. On ne peut pas exister. Première chose. Et la prochaine fois, ce ne sera pas dimanche prochain, parce que dimanche prochain, on sera à Étupes. Dimanche d'après, on va se recentrer sur l'homme et on verra que l'homme, quand il est créé pour Christ. Christ n'est pas seulement une solution à un accident qu'on a appelé l'erreur du premier couple humain, parce qu'elle a croqué de la pomme ou je ne sais quoi. Non. Christ, dès que le monde est créé, tout doit cheminer vers Christ. Et quand on n'atteint pas Christ, on a raté la cible, c'est qu'on n'est pas dans le plan de Dieu. Ça sera la deuxième partie. La première partie, ça sera l'aboutissement de la création. Donc aujourd'hui, Christ, l'aboutissement de la création, et nous allons lire ensemble un passage que nous connaissons tous, et nous allons faire attention à ce qui est dit sur le Seigneur Jésus-Christ. Ça nous dépasse totalement. C'est dans Colossiens. Et c'est dans l'épître de Paul aux Colossiens. Chapitre 1, et je vais lire de versets 12 à 20. Et c'est ce passage-là qui va être le fil conducteur des deux je dirais, partage qu'on aura aujourd'hui et dans 15 jours. Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 20. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière qui nous a délivrés, dans la lumière qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il s'agit de Jésus-Christ, de son amour. Et en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Par la suite, voilà ce qui est dit sur le Seigneur. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, j'insiste, en lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Je peux m'arrêter là. Juste en lisant ce passage-là, on se rend compte de ce qui est le Seigneur. Il est plus que ce que nous pensons. Il est plus que cette personne historique, les historiens nous présentent. Il existait avant la fondation du monde. Toute chose subsiste à travers lui. Peut-être, dans l'Ancien Testament, on ne le connaissait pas physiquement, mais il était là. Mais dans la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, il a voulu nous le révéler à un certain moment, il y a plus de 2000 ans. Vous voyez, réduire le Seigneur seulement à une personne historique, c'est déjà se mettre en, je dirais, remettre en question ce que la parole de Dieu nous dit. Au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous imaginons, le Seigneur dépasse son aspect historique, car il a toujours existé. Déjà dire cela, on a une certaine confusion. Il a toujours existé. Mais non, mais il est venu il y a 2000 ans. Ben oui, ça c'est l'effet visible. Mais le Seigneur a toujours existé. Christ ne se réduit pas à son parcours historique, au milieu du peuple juif. Il y a de cela un peu plus de 2000 ans. Christ est l'image du Dieu invisible. En lui ont été créées toutes les choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Toute la plénitude habite en lui. Il est tout et en tous. Il est l'espérance de la gloire. Notre vie est cachée avec lui et en lui. C'est notre identité, le message dimanche dernier. Notre identité est cachée en lui. Il est notre réelle identité. Christ est le pourquoi et la raison de la création. Il est le projet de Dieu voulu de toute éternité, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il est question de Christ comme l'origine, le cheminement et l'aboutissement du plan parfait de Dieu. Le Seigneur lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le privilège que nous avons, c'est que ce Christ est notre identité en tant que chrétien. C'est un privilège que nous avons par rapport au monde. Il est notre identité. Il nous habite tous ce matin, ensemble, par l'Esprit Saint. Et du coup, nous devenons un avec lui et lui avec nous. C'est ça qui fait que nous sommes en communion ensemble. Ce n'est pas par affinité amicale, parce qu'on s'apprécie. Pas du tout, parce que nous sommes unis en Christ, le seul qui peut nous unir. Nous sommes des petits Christ. Nous sommes appelés à être des petits Christ. Et Dieu désire nous préparer pour la rencontre céleste avec son Fils lors des noces célestes. Ne l'oublions pas ça. La finalité, c'est que l'Église soit prête pour rencontrer le Christ. Et je ne le souhaite pas, du fond de mon cœur, qu'au dernier moment, il y en a qui ne font pas partie. Dieu veut faire de nous une Église pure et sanctifiée. Éphésiens 5, 20, Éphésiens, nous allons lire un passage dans Éphésiens 5, versets 25-27. Et regardez le lien qu'on fait, on commence d'abord par le couple, le mari et la femme, et tout de suite, on le fait le parallèle avec Christ et l'Église. Le couple, le mariage, est l'image visible du mariage céleste entre Christ et son Église. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà l'objectif que le Seigneur veut faire de son église et de chacun de nous. Nous formons l'église et nous prépare pour la rencontre avec lui. Le passage que nous avons lu au départ dans Colossiens fait partie, comme on a dit, de l'épître Paul aux Colossiens. C'est une lettre céleste qui nous dépeint un Christ cosmique, un Christ éternel et infini, comme le Père est infini. Et je vous conseille vraiment de lire cette lettre aux Colossiens et surtout ne cherchez pas à la comprendre. Parce que vous allez vous arrêter tout de suite. Si nous voulons découvrir un Christ différent de nos conceptions, il suffit de lire cette merveilleuse lettre aux Colossiens. Effectivement, quand je lis la Bible, je détecte ce projet progressif comme en filigrane. Et c'était au début de ma conversion, et je passais mes nuits à lire un ancien musulman qui était érudit, et qui, voilà, et d'un seul, il découvre la Bible, donc je commençais à la lire. Mais je voyais cette réalité en filigrane. Il y a quelque chose que, donc, on ne peut pas le voir, mais c'est comme si, en fait, une lettre envoyée par une fiancée à son fiancé, on peut l'intercepter, cette lettre-là. On peut la lire, on peut la comprendre nous-mêmes. Mais il n'y a que le fiancé qui peut comprendre ce qui est derrière, ce qu'elle veut dire derrière les mots. Vous voyez, la Bible est une lettre d'amour adressée à Dieu, à son peuple. Mais pour comprendre cette lettre d'amour, il faut avoir cette relation d'amour. Et du coup, on verra qu'il y a un message derrière les mots, comme un code, si vous voulez. Mais il n'y a que les couples qui peuvent le comprendre. Bien entendu, il ne faut pas lire la Bible comme un livre d'histoire. Et malheureusement, c'est ce qu'on en fait, même à travers des émissions, archéologie et tout. On prend la Bible comme un livre d'histoire, mais il est plus que ça. Mais comme un livre qui véhicule une révélation en devenir. La Bible est une révélation progressive. Voilà le point qu'on a partagé mercredi. C'est que dès le premier verset, on voit que ce plan qui est en devenir, ce n'est pas figé. Le plan est annoncé dès le premier verset de la Bible. Cette révélation concerne un projet avec un grand P, lancé dès le premier verset de la Bible. Dès le premier verset de la Bible, le Dieu a lancé un projet. En effet, en créant le monde, Dieu voyait la finalité de son projet à l'avance et même de toute éternité. Il voyait son Fils sur la croix. Il voyait son bien-aimé Fils mort et ressuscité. Et surtout, il voyait l'épouse, l'Église, l'épouse, s'unir à son Fils Jésus-Christ. L'épouse, c'est nous les chrétiens qui formons l'Église avec un grand E. Dès les premiers versets de la Bible, le plan de Dieu se présente en filigrane, comme un projet en devenir. Chaque détail ne trouve son sens que seulement quand on le place dans la globalité du plan de Dieu. Souvent, nous cherchons à expliquer la Bible en cherchant un verset. Mais le verset n'a de sens que s'il est émergé dans toute la pensée de Dieu. Tout s'explique par la pensée globale de Dieu. Et même plus, la croix ne se présente pas comme étant une simple solution à nos erreurs humaines historiques. La croix ne se présente pas comme un remède palliatif à la faute du premier couple de l'humanité. La croix ne se présente pas uniquement comme un acte effectif, certes visible pour nous à travers le sacrifice du calvaire à Golgotha, événement historiquement reconnu, on ne le remet pas en question. La Bible nous présente la croix comme l'unique lieu, je dis bien l'unique lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. Nulle part ailleurs, l'homme ne peut rencontrer son Créateur. Nulle part ailleurs, le seul endroit où Dieu vient à la rencontre de l'homme, c'est sur la croix. Ce n'est pas l'homme qui rencontre Dieu, car de lui-même, c'est-à-dire l'homme de lui-même, ne peut rencontrer qu'une thèse, qu'une théologie, un concept de Dieu, autant de projections de l'homme lui-même, produites par sa puissance cérébrale, qu'on met au centre et on l'érige en Dieu. Regardons le monde qui se passe, on dit que l'homme peut résoudre tous les problèmes. La science devient Dieu. que j'appelle une science sans conscience. C'est Dieu qui rencontre l'homme, une rencontre qui s'effectue en Christ. Eh oui. En fait, cette rencontre a déjà pris place. C'est-à-dire sur la croix de Golgotha. C'est déjà fait. C'est sur cette croix que Dieu a rencontré l'homme, dans le Christ crucifié. C'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait. Mais cette réalité extraordinaire, et c'est là, ça va nous donner un peu de migraine, cette réalité extraordinaire de la rencontre de Dieu avec l'homme est réalisée depuis toujours. Ne cherchons pas à comprendre, nous avançons et nous verrons avec la parole de Dieu ce que nous dit. La rencontre sur la croix de Dieu avec l'humanité est une réalité, est une rencontre réalisée depuis toujours. Oui, ça nous dépasse. Ce n'est pas une simple conséquence, c'est une rencontre qui a toujours existé. C'est une réalité spirituelle, explicitée par l'agneau immolé avant la fondation du monde. La rencontre effective il y a 2000 ans n'est que l'effet visible d'une réalité qui a toujours existé. C'est toute la vérité de l'agneau de Dieu, immolé dès la fondation du monde. Lisons ensemble Apocalypse 13, 8. Apocalypse 13, 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. L'agneau de Dieu est immolé avant la fondation de notre monde visible. Il est bien clair dans la parole de Dieu. Mais nous allons le découvrir encore en lisant la Genèse. C'est dans ce remarquable texte des premiers chapitres du livre de la Genèse que l'essentiel de l'œuvre divine pour rendre cette rencontre réelle est déjà exposé. Bien avant les écrits de la Bonne Nouvelle, celle des Évangiles. La croix du calvaire se révèle comme réalité invisible, présente dans notre histoire dès son commencement, dès la Genèse, dès les deux premiers chapitres de la Genèse. Ceci se justifie aussi par une autre réalité invisible et présente depuis le commencement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. En fait, tout ce qui est réel, donc invisible, par conséquent, ce que nous pensons réel, le visible, n'est rien d'autre qu'un mensonge. La réalité réside dans ce que nous ne voyons pas, la réalité elle est spirituelle, la réalité elle est infinie. Mais ce que notre nature, ou le diable nous fait croire, la vérité réside dans ce que vous voyez. Comme si ce que nous ne voyons pas n'est pas réel. En fait, tout ce qui est réel, donc invisible à l'intelligence humaine, est présent depuis toujours. Et devient visible, accessible et pratique dans notre histoire, et ceci dès le commencement. C'est ainsi que la lumière s'est jetée sur le sens des paroles de l'Ecclésiaste, quand il a écrit dans le chapitre 3, verset 15, si je vais vers l'Ecclésiaste, le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 15, voilà ce qu'il écrit l'Ecclésiaste, le livre de l'Ecclésiaste, voilà ce qu'il écrit. Ce qui est, a déjà été. Et ce qui sera, a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. On va commencer à avoir un peu de migraine, je vous l'ai dit. Ce que nous vivons a toujours existé. Et surtout, ne vous fiez pas de dire, la réalité c'est seulement ce que je vois, ce que je vis. Non, la réalité me dépasse, elle n'a pas de temps, elle ne se conjugue pas à la réalité. La réalité est. Dieu dit, je suis celui qui est. Pourquoi celui, c'est celui qui est? On ne peut pas dire, parce que sinon je dirais, celui qui était, donc je le ramène au passé. Celui qui je serai, donc c'est le futur. L'éternité, la réalité n'a pas de temps. La réalité a toujours existé et l'Ecclésiaste l'exprime clairement ici. Tout ce qui existe, ça a toujours été. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible en hébreu, et là on y arrive maintenant au cœur du sujet, c'est pourquoi la Bible en hébreu ne conjugue aucun temps. La Bible en hébreu, l'Ancien Testament, avant sa traduction, Il n'y a pas de conjugaison. Puisqu'elle est écrite au présent. Non, elle est écrite au présent qui dure. C'est la spécificité de la langue hébraïque. Il est difficile de traduire la Bible. L'Ancien Testament est écrit en hébreu ancien. Or, la langue hébraïque ne comporte pas de voyelles. Elle comprend peu de mots par rapport à nos langues. Le système des temps verbaux est très complexe et ne comporte pas de présent, ni de passé, ni de futur. C'est la langue de l'éternité, en quelque sorte. Par exemple, le tétragramme Yahvé, on le prononce. Donc, il faut savoir que dans la culture hébraïque, ils ne le prononcent même pas. Pourquoi ? Par respect pour Dieu, parce qu'ils disent, en le prononçant, par mes mots déjà, je l'ai limité. Donc, je préfère le mot triangle juste avec le doigt. Vous voyez ? La crainte de l'éternel, déjà, ça va jusqu'à quel point ? Le tétragramme Yahvé, qui est le nom de Dieu, peut signifier, Yahvé peut signifier « je suis », il peut signifier « je serai », et donc il peut vouloir dire aussi « je deviens ». Le même mot veut dire la même chose. C'est le présent qui dure. Vous voyez, la traduction, quand on met une conjugaison, on conditionne notre cerveau. Si on le traduit au passé, ma tête résonne au passé. En résumé, ce qui est extraordinaire dans le texte biblique, surtout les chapitres 1 et 2 de la Genèse, que je vous conseille de lire, c'est la place donnée à ce qui fera le sens de l'histoire et la force motrice de son déroulement. Un déroulement qui aminera l'histoire, donc notre histoire personnelle, dans une apothéose de vie éternelle en union totale avec Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Tant que l'être humain ne rencontre pas le Christ, il n'est rien. On ne peut même pas le juger, même pas dire qu'il est mauvais, c'est même pas question ça. Tant que l'être humain ne rencontre pas Christ, je vais dire même presque, il n'existe pas. Nous sommes créés pour rencontrer le Seigneur. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et qui est l'image de Dieu? C'est Christ. Tant que nous ne rencontrons pas Christ, s'il n'habite pas en nous, nous n'avons, en fait, même pas dire malade ou aliéné, c'est déjà donner une existence. En fait, on n'existe même pas. En effet, Christ est le sens et l'aboutissement de toutes choses, rendant effective la nécessité de sortir du temporel. Avec Christ, il nous sort du temporel, c'est-à-dire du visible, ébranlable, de la vie de tous les jours. Sortir et se libérer du mensonge des expressions de type « je crois à ce que je vois ». C'est un des pires mensonges qu'on peut avoir. La vérité est rationnelle. Tout s'explique par la science. Cette libération ne peut se faire que par la puissance de la mort à nous-mêmes. Et nous voilà à la croix au centre, encore une fois. Brisement depuis toujours effectué pour nous à la croix du calvaire. Une croix présente dès le commencement, comme réalité active, mais rendue invisible jusqu'à la révélation à Golgotha, il y a un peu plus de 2000 ans. Alors, j'ai pris comme point d'appui quelques passages de la Genèse. On va commencer par le premier verset de la Bible, au commencement. Tout le monde connaît le passage. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La traduction qu'on nous fournit. Mes premières remarques, sans aller dans les détails. Tout d'abord, quand on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, surtout ne pensez pas à la terre telle que nous la voyons là, à la terre où nous vivons, ou le ciel ce que nous voyons. La terre, le mot terre et ciel peuvent utiliser de plusieurs manières, dans celle que je vais vous livrer. La terre veut dire matière et le ciel veut dire le spirituel. Ça peut être aussi le visible et l'invisible. C'est ça la traduction. Terre et ciel que nous ramenons en pensant à la terre là. C'est que Dieu a créé deux choses. Ce qui n'est accessible, visible, matière, et ce qui n'est pas accessible, le céleste, le spirituel. Dès le départ, il y a cette terre et ce ciel. En se référant au texte original, une lettre semble être oubliée par le traducteur de la Bible. Ceux qui aiment lire la culture hébraïque, je vous conseille de lire le Talmud, si vous voulez, ou des interprétations rabbiniques, et vous verrez que quand on a traduit « au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », les traducteurs ont oublié un mot. Enfin, je ne dirais pas qu'ils l'ont oublié. Ils ont exprès de l'enlever. Parce que si on le laisse, la phrase n'aura plus de sens. Parce qu'il faut lire plutôt, si je dois traduire mot à mot, voilà ce que je dis. Au commencement de, quelque chose, au commencement de, virgule, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà la traduction. Comme ça n'a pas de sens, on a dit, mais il faut rendre quand même le passage intelligible. Donc on va enlever le 2. Et c'est devenu, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et tu goûtes, tout le monde, au commencement de quoi? Bizarrement, un mot manque, comme si c'était un oubli de l'auteur de ce livre de la Genèse. Mais ce n'est pas un oubli. C'est l'homme qui a enlevé ce mot pour qu'on puisse comprendre la phrase. Alors les traducteurs de la Bible l'ont tout simplement supprimé pour rendre ce premier passage intelligible et compréhensible. La logique humaine est intervenue pour donner du sens à ce passage. Quelle erreur. Au commencement de, on ne sait pas, Dieu créa le ciel et la terre. J'aurais pu m'étaler sur même l'ordre du sujet et du verbe. Hein? Dieu créa. Dans l'hébreu, bara Elohim. Si je dois traduire mot à mot, c'est créa Dieu. Pourquoi on a commencé par le verbe? Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je vais toucher un petit mot. C'est que dans ce premier verset, il dit qu'il y a deux façons de voir Dieu. Soit c'est Dieu qui se révèle, soit que le verbe qui précède, c'est l'homme qui crée Dieu. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Chacun nous présente Dieu à sa façon. Mais ce n'est pas le sujet. Restons toujours sur le premier passage. Au commencement, Bereshit. Voilà le mot qui est utilisé, Bereshit. Bereshit, le mot hébreu. Bereshit est composé de deux mots. B, plus loin, Reshit. Le B traduit par « au commencement, « au » veut dire aussi « par » et « pour ». Oui, pour rendre le passage intelligible, on a opté pour « au commencement pour ». Parce que si on dit « pour un commencement », les gens qui disent « au commencement de quoi ?» Non, « au commencement ». Et il y a « Reshit ». « Reshit » traduit par « commencement » veut dire aussi « tête »,« projet » et « principe ». Dans le texte hébraïque, il y a bien un commencement de quelque chose, sans que cette chose soit nommée. On ne sait pas ce que c'est que cette chose. Cette chose est en fait un principe et un projet divin qui se trouve dans l'autre traduction du mot Reshit. Bereshit. Sans m'attarder sur cette analyse du premier verset, je partage avec vous une autre traduction à la lumière du texte original et surtout à la lumière du Nouveau Testament. Voilà la traduction que je vous livre. Par un principe et pour un projet, Dieu s'est séparé en accouchant dans un acte d'amour de la matière et de l'esprit. On est loin de la traduction donnée. Le verbe bara veut dire se séparer d'eux, mettre hors d'eux, accoucher. Et quand on accouche, quand la femme accouche, c'est un acte d'amour. Vous voyez ? Donc, pour un principe, par un principe et pour un projet qu'on ne connaît pas, annoncé dès le premier verset de la Bible, Dieu s'est séparé dans un acte d'amour de la matière et de l'esprit. Ce projet a demeuré mystérieux tout au long de l'Ancien Testament. Il a fallu attendre le Nouveau Testament et l'avènement de l'Esprit de Dieu pour qu'enfin nous ayons l'interprétation divine de ce projet lancé dès le livre de la Genèse. Cette interprétation est donnée par le début de l'Évangile de Jean. Ce projet n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ qui est le pourquoi et la raison de la création du monde. C'est justement ce que l'apôtre Jean nous transmet dès le début de son évangile. Voilà le projet de Dieu. Il est dès le premier verset de l'évangile de Jean. Ce projet est le suivant. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Oui, au commencement. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. C'est quoi ce projet? C'est quoi ce principe? La parole de Dieu. Eh bien, c'est le Christ, Jésus-Christ. Dès le premier verset de la Genèse, le Christ est annoncé. C'est glorieux. Alléluia, merci Seigneur. Deuxième élément que je partage avec vous pour encore qu'on se libère de cette image, qu'on réduit Christ seulement à cet être historique. Genèse 1, verset 2. Je lis toujours. Genèse 1, verset 2. Nous lisons. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous connaissons ce passage aussi. sans entrer dans une analyse détaillée de ce verset, je veux juste m'arrêter au mot utilisé dans le début. C'est-à-dire, la terre était informe et vide. La traduction qu'on nous a livrée, rationnelle. Même les scientifiques commencent à chercher des atomes, des protons, je ne sais quoi. La terre était informe et vide. La terre, il ne s'agit pas de notre planète. Ce n'est pas de cette terre-là qu'on nous parle. C'est le monde de la matière. C'est ce qu'on a dit au début, Dieu créa la matière et l'esprit. Quant au mot informe et vide, ils sont la traduction du mot composé hébreu, tohu, bohu. Voilà les deux mots utilisés, informe et vide. Tohu, bohu. Tohu veut dire vide de sens. Tohu veut dire vide de sens. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire aussi désolation, qu'on a traduit par informe. Cette dernière caractérise l'état du monde visible, l'état de notre âme. Tout est destiné à la destruction. Regardons ce qui se passe dans le monde. Tout va mal, problèmes économiques, sociaux, sociétaux, écologiques, moraux, tout ce que... Et j'en passe. L'homme est la cause de ses propres maux, M-A-U-X, et il s'érige en sauveur dans le malheur qu'il crée lui-même. Il tourne en rond. Il est ce tohu. Il est vide de sens. Il est cette désolation. Non seulement lui, mais l'univers entier dans lequel il est créé. Parce que le Seigneur nous dit, ce n'est pas la première version qui lui compte, c'est la version finale. L'homme et son univers ne trouvent leur sens que dans le deuxième mot, bohu. Et que veut dire bohu ? Veut littéralement dire, en lui, c'est. Mot à mot, en lui, c'est, apostrophe EST, en lui, c'est. Ça veut dire, rien ne trouve sens qu'en lui. C'est-à-dire, voilà, au début, la matière, notre monde à nous, l'homme, le premier Adam dans le monde, il n'a pas de sens, tohu, et il est destiné à trouver sens en lui, Dieu, bohu. Il faudra attendre l'écriture de la lettre de Paul aux Colossiens pour trouver le sens profond de ce mot hébreu. Et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. 1 Colossiens, versets 15 à 17. Si je le prends, 1 Colossiens 15 à 17. 1 Colossiens, chapitre 1, 15 à 17. Alors, je cherche le 15 à 17. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Rien n'a de sens en dehors de Christ. Le verset 17 déclare que toute chose subsiste en lui. C'est-à-dire qu'en Christ, nous trouvons le sens et la cohésion harmonieuse de tout ce qui constitue la création. En dehors de Christ, il n'y a rien. Je le répète, en dehors de Christ, il n'y a rien. Nous pouvons vivre les meilleures religions du monde. Nous pouvons prier 50 fois par jour. Si nous ne sommes pas en Christ, nous ne sommes rien. Christ est la signification et l'aboutissement de toutes choses sans exception. Voilà Christ annoncé dès le début de la parole, comme celui en qui c'est. Dieu lui-même l'a dit, je suis celui qui est. On a traduit comme un peu encore une fois. Parce qu'on ne peut pas, c'est intraduisible. C'est un temps éternel, un temps qui dure. Le sens et la finalité de toute chose, c'est Christ. Alors je passe à un troisième point. On est toujours dans la Genèse. Vous voyez, le Christ est présent dans la Genèse. Alors là, c'est ce que j'appelle du bon au très bon. Tout le monde connaît cette traduction. Premier jour, il voit que c'est bon. Hein. Après, le dernier jour, c'est très bon. Là encore, on a traduit. On l'a traduit comme on peut. Lisons le passage du livre de la Genèse, chapitre 1, verset 31. Genèse, chapitre 1, verset 31. Qui montre l'œuvre divine effectuée après avoir donné un sens à toute chose pour amener la créature humaine à trouver la porte d'entrée dans ce sens à toute chose. Nous y trouvons ces mots. Voilà ce qu'on trouve dans ce passage. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Pourquoi il dit bon avant? Et là, il dit, il est très bon. Je sais pas, il a envie de le dire comme ça. Non, la parole de Dieu a toujours un sens profond derrière. Arrêtons-nous ici au mot très bon. Le très bon. En hébreu, on revient toujours en hébreu, c'est une langue céleste. C'est comme ça, le Seigneur l'a instauré. En hébreu, le très bon, c'est Tov Meod. Ça ne veut rien dire pour vous. Tov Meod. Littéralement, bon, très. C'est pas très bon. Tov Meod, c'est bon, très. Cette inversion des mots est utilisée dans le texte original pour souligner le fait que le mot important de cette juxtaposition est le mot très. Meod, en hébreu. Comme les rabbins le rappellent, Meod vient de Mavet, qui veut dire mort. Ainsi, le très bon signifie bon grâce à la mort. Ou la traduction littérale, c'est bon la mort dans la Genèse. L'adjectif bon, utilisé plusieurs fois dans le chapitre 1er de la Genèse, montre la conformité avec le dessein divin de ce qui apparaît. Dieu vit que cela était bon, c'est-à-dire que Dieu se réjouit de constater que tout est exactement en accord avec ce qu'il avait projeté de faire. Mais cette fois-ci, parvenu à la fin de la dernière étape de son ouvrage, Dieu se réjouit encore davantage parce que la mort fait partie intégrante de cet ouvrage. Je vais me faire des ennemis au milieu des chrétiens. Je l'assume. Parce que la mort fait partie intégrante de cet ouvrage, c'est pour ça qu'il a dit « c'est très bon ». Mais s'agit-il de la mort physique? Que la Bible appelle, d'ailleurs dans l'hébreu, « sommeil », parce que dans l'hébreu, la mort se dit « sommeil ». Parce qu'il y a la résurrection, « sommeil ». S'agit-il de la mort physique? Mais pas du tout. Il ne s'agit pas de la mort physique. Il s'agit de cette capacité de métamorphose mise en chacun de nous. Tout être humain créé, il a cette capacité de métamorphose. C'est-à-dire cette capacité de mourir. Mais il s'agit surtout de la mort et du décès à la croix du calvaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, dès la Genèse, la croix est annoncée. Cette mort du Christ dans laquelle ont été associées toutes les générations humaines. Cette mort ouvre la porte d'entrée à la nouvelle création. Et merci pour la prière de ce matin. La seule qui dure éternellement. La tragédie de la croix donne vie, parachève l'œuvre de la création racontée dans le début de la Genèse. Cette histoire de la création racontée dans la Genèse est transformée en réalité éternelle grâce à cette mort, la mort du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est temporel est remplacé par ce qui dure éternellement. Grâce à la mort du Seigneur Jésus-Christ, et nous allons lire ensemble, Hébreux, chapitre 12, versets 24 à 27. 12, chapitre 12, alors, 12 versets, on va lire le 27, verset 27. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant créées afin que les choses inébranlables subsistent. Ce qui est visible est passager. Ce que nous vivons là, on va mourir un jour, on va disparaître, on va aller dans la tombe. Si nous nous intéressons à cela, mais on est à côté de la plaque. La réalité est de ce qui nous dépasse, qui dépasse notre corps. La tragédie de la croix donne vie à notre réalité. L'être humain est invité à se soumettre à cette puissance de transformation. Celle de la croix qui conduit au brisement de sa façon de vivre et de ses priorités. C'est pourquoi nous avons besoin que la croix fasse son œuvre en nous. Si nous attachons seulement à ce que nous vivons, à ce que nous sentons, à nos priorités, à tout ça, on est perdu. La croix nous libère pour nous dire la réalité, c'est au-dessus. La réalité, c'est Christ. La réalité, c'est quand on fera partie de l'Église, qui est à la rencontre de Dieu. La réalité, c'est que quand on sera plus de ce monde, on se verra tous ensemble, on dira, regardez, nous sommes unis pour l'éternité en présence de Dieu. Et tous ceux qui ont mis leur confiance ici-bas, ben ça va disparaître avec, dans la tombe. Ça va pas, c'est pas éternel du tout. L'être humain est invité à se soumettre à cette puissance de cette transformation. Celle de la croix qui conduit au brisement de sa façon de vivre et ses priorités. Paul écrira, « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Il confirme ainsi ce qu'il a écrit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, voilà ce qu'il dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. La création peut être traduite aussi par nouvel ordre en devenir. Voilà. Nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle création. Ainsi, dès le premier chapitre de la Genèse, le lecteur, nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous découvrons grâce au mot « mort » que le dessein de Dieu est d'amener la création à la perfection, c'est-à-dire à la réunion de toutes choses en Christ, visibles et invisibles. Une création appelée à être transformée par la puissance de la croix, cette puissance qui vient de la mort. La vie découle de la mort. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de mort. Et je vais lire juste 2 versets. Éphésiens, chapitre 1, versets 9 et 10. Éphésiens, chapitre 1, 9 et 10. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir, voilà l'objectif de Dieu, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, et surtout nous en tant que chrétiens. Colossiens, chapitre 1, verset 17. Le verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Toujours cette communion avec lui. Et je termine par un dernier exemple. L'arbre de vie. L'arbre de vie. N'oublions pas que dans le jardin, avant qu'il y ait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait déjà l'arbre de vie. Ça veut dire que la priorité, c'est quoi? C'est l'arbre de vie. Et nous verrons ce que c'est que l'arbre de vie. Je vous donne tout de suite la réponse. C'est la croix du Seigneur. Ce passage nous présente l'arbre de vie mentionné avant même celui de la connaissance du bien et du mal. Je ne vais pas m'étaler sur la comparaison des deux. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie, c'est un autre sujet. Et je l'évoquerai à le prochain partage, parce qu'on évoquera l'homme, l'être humain. Mais je peux déjà vous dire que l'une correspond à l'homme déchu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'autre à la vie, et la vie divine, l'arbre de vie. Et le passage de l'un vers l'autre exige une séparation radicale. Une mort à soi-même, une mort à son ancienne vie. C'est déjà le message de la croix du Seigneur dans le jardin d'Éden. Le mot arbre, arbre de vie, arbre, s'écrit etz, E-T-Z, etz, en hébreu. Il est utilisé plus de 300 fois dans l'Ancien Testament. Il peut également prendre plusieurs significations, ce mot. Il peut signifier arbre, il peut signifier bois, il peut signifier planche, il peut signifier tige, il peut signifier bâton, il peut signifier potence, etz, l'arbre de vie, le mot arbre. Tout dépend du contexte dans lequel il est placé. On pouvait laisser le choix de la signification aux interprètes qualifiés qui ont fait des... Ils peuvent nous interpréter comme ils veulent. Mais je préfère vous lire l'interprétation d'un frère que j'ai connu. Il est encore toujours vivant, ce mois, il doit avoir 84, 85 ans, il vient en Angleterre. C'est un scientifique reconnu, un chrétien, qui a joué un très grand rôle dans ma vie chrétienne. Il s'appelle Serge Tarasenko. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Si vous avez des écrits ou si vous pouvez l'écouter, c'est un scientifique qui s'est converti à la foi chrétienne en se rendant compte que la science le mène vers un mur. Et le Seigneur a utilisé cette science, plus des épreuves de la vie, parce qu'il a échappé beaucoup, pour le ramener à cette repentance. Et il l'a utilisé dans le milieu scientifique et il sillonnait les églises dans les années 90 pour partager sa foi. Voilà ce qu'il dit. Il est vrai que l'intelligence humaine ne peut que fournir une interprétation. Toutefois, et c'est ici que réside une différence capitale, l'interprétation peut être motivée et conduite par l'Esprit Saint. De ce fait, elle s'aligne parfaitement sur le sens profond donné au mot biblique par l'Esprit de Dieu. Celui-là même qui a présidé à l'énoncé des Saintes Écritures en inspirant directement ceux qui ont participé à la rédaction des Saintes Lettres. C'est ainsi qu'il m'a été donné, c'est lui qui parle, le frère Serge Tarasenko. C'est ainsi qu'il m'a été donné le privilège de rechercher dans l'esprit le sens et la place du mot arbre, dans l'harmonie et la cohérence cachées des Écritures. Et sans cesse, j'étais ramené au sens des paroles trouvées dans Deutéronome, chapitre 21, versets 22 et 23. Nous allons le lire. Alors, Deutéronome, chapitre 21, versets 22 et 23. Voilà, je lis. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Il est question de Hetz de l'arbre. En bref, les mots arbre de Genèse chapitre 2 verset 9 et bois sur lequel on pend le condamné, le gibet, en quelque sorte, ont un seul et même sens. Ainsi, dans ce verset, les mots arbre de vie peuvent être également interprétés spirituellement par les mots, voilà ce qu'il nous annonce, arbre sur lequel est pendu le condamné et d'où sortira la vie éternelle. Voilà ce comme il a vu l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. N'est-ce pas là la croix du calvaire qui se révèle ainsi comme réalité invisible, présente dans notre histoire dès son commencement. Ceci corrobore une autre réalité invisible et présente depuis le commencement. L'agneau de Dieu immolé dès la fondation du monde. En fait, tout ce qui est réel, donc invisible à l'intelligence humaine, est présent depuis toujours. Ce réel est la racine même de notre histoire. Ce réel, c'est ce qui nous fait que nous sommes chrétiens. Nous pouvons avoir cette vie éternelle. Mes frères et sœurs en Christ, ne réduisons pas Christ à une histoire biblique. Ne réduisons pas Christ à un simple faiseur de miracles. Ne réduisons pas Christ à un simple remède. Ne réduisons pas Christ à un simple soin palliatif à nos bobos, à nos difficultés. Ne réduisons pas Christ à une solution à nos problèmes seulement. Ne réduisons pas Christ à des habitudes, même chrétiennes. Ne réduisons pas Christ à des règles et une religiosité chrétienne. Ne réduisons pas Christ à des dogmes. Ne réduisons pas Christ à des théories. Ne réduisons pas Christ à des dénominations. Ne réduisons pas Christ à un apprentissage de la Bible. Ne réduisons pas Christ à des définitions théologiques. Ne réduisons pas Christ à des diplômes et des concours théologiques dans les universités les plus prestigieuses du monde. Ne réduisons pas Christ à ce qu'il n'est pas. Il est le pourquoi de la création. Il dépasse l'être historique qui a marché au milieu de nous il y a plus de 2000 ans. Il est l'origine, le cheminement et l'aboutissement de toutes choses. Il est le sens même de la création, y compris notre existence. Nous rendons-nous compte que nous avons ce Christ en nous. Tout cela, nous l'avons en nous. C'est ça la grâce de Dieu, nous l'avons. L'objectif de Dieu ne se limite pas à notre conversion. L'objectif de Dieu, c'est de former Christ en nous. Comme dans Galates 4, 19, Galates 4, 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Dieu veut nous emmener vers la maturité spirituelle. Et cette maturité spirituelle nous libère de nos conceptions de ce monde sur Christ que nous réduisons. Et quand on arrivera à cette maturité spirituelle, là nous découvrons que l'apôtre Paul le dit dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen.